Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une émission pour les ICO de l'innovation, pour parler et pour débattre. Le sujet du jour, c'est toujours le futur, et plus précisément l'art du futur. Je suis Félix et je suis aujourd'hui avec Garance, Louise et Elliot.
Hello.
Bonjour.
Salut.
Et nous allons discuter de ce à quoi pourrait ressembler l'art dans 5 ans, 10 ans ou même 100 ans. Pour ce faire, il faut d'abord que l'on comprenne ce qu'est l'art et comment l'art évolue dans le temps. L'art est un terme très vague. Nous savons tous ce qu'est l'art, mais quand on nous demande de définir le terme, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Nous avons donc interrogé quelques personnes pour avoir la définition de l'art. Voici quelques-unes de leurs réponses.
Du coup, selon vous, qu'est-ce que c'est que l'art ?
Ah, c'est compliqué, mais pour moi, l'art, c'est représenter de manière assez tangible la créativité et l'imagination qu'on a. Du coup, je pense que la seule limite qu'il y a, c'est littéralement l'imagination et aussi parfois le moule, on va dire.
L'aspect technique.
Ouais, voilà ça. L'aspect technique.
Ok, merci.
Pour moi, dans l'art, il n'y a pas de limite et c'est laisser libre cours à son imagination et toujours tenter de nouvelles choses sans se mettre des contraintes et sans penser à ce que les autres vont penser de ton art. Voilà.
Selon moi, l'art, c'est propre à chacun. Ça peut être n'importe quoi, que ce soit du street art dans la rue, que ce soit musical. Ça peut être de la peinture. Ça peut être un talent. Moi, c'est ça.
Okay.
C'est un peu tout, c'est propre à chacun.
D'autres suggestions ?
Moi, selon moi, l'art, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans l'art et chacun ses goûts, on va dire. On peut faire n'importe quoi avec de l'art.
Tout simplement, pour moi, l'art, c'est un moyen de s'exprimer déjà dans un premier temps. Après, ensuite, les limites, elles sont comme mon coéquipier l'a dit tout de suite, elles sont fixées en fonction de chacun. Maintenant, il y a plusieurs moyens d'exprimer, de s'exprimer. Donc l'art, pour moi, ça englobe énormément de choses qu'on ne pourrait pas dire qu'est-ce que c'est l'art. Donc, c'est trop subjectif. C'est trop subjectif.
Du coup, qu'est-ce que vous pensez des artistes contemporains qui vont exposer des objets de la vie de tous les jours et appeler ça de l'art ? Est-ce que vous appellerez aussi ça de l'art ou...
En fait, je pense qu'on appelle ça de l'art parce qu'ils transposent de ce qu'ils voient. Et ensuite, ils rajoutent leur touche personnelle. Et étant donné que c'est maîtrisé et qu'il y a une certaine technique, c'est pour ça que nous, on apprécie et qu'on dit que c'est de l'art. Parce qu'il y a un travail derrière, il y a forcément des études, c'est une spécialité, c'est un savoir-faire. Et du coup, c'est pour ça que nous, on apprécie ensuite ce travail et qu'on définit ça comme de l'art. Donc pour moi, forcément, le fait qu'ils font des expositions, c'est pour légitimer leur travail, leur savoir-faire. Et tout à fait normal que par la suite, on appelle ça de l'art.
Merci.
L'art, je peux dire mon travail, par exemple la cuisine, quand j'ai fait les pizzas, tout ça, c'est l'art. C'est musique, c'est l'art. Artistiquement, c'est les théâtres aussi, c'est le thème du théâtre, tout ça.
Et pourquoi tu considères ça comme de l'art ? Qu'est-ce qui fait que c'est différent de quelque chose qui ne serait pas de l'art ?
Puisqu'ils sont du truc, c'est qui fait du truc. En fait, c'est lui qui sent le truc, c'est pour ça qu'il fait des bons trucs artistiques, puisque déjà ils sont dedans, ils sont vraiment, c'est vraiment un artiste.
Donc une intention un peu ?
Oui, un peu.
Ok, ça marche, merci.
Merci.
Ok, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui fait ressentir quelque chose, genre chez les gens.
Voilà. Ok.
C'est exprimer un sentiment par un procédé matériel.
Moi, j'ai pas encore trouvé de définition.
Pour moi, l'art, c'est pas forcément beau.
Non, c'est pas forcément
beau. Mais c'est artistique.
Pour moi, l'art, c'est tout ce qu'on peut essayer d'exprimer en cherchant quelque. En fait, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours.
J'avais changé ma définition, en fait.
Vas-y.
C'est exprimer un sentiment avec un moyen qui fait appel à nos sens, genre. Parce qu'il y avait la musique aussi, j'avais oublié, tu vois.
Okay.
Donc ça fait appel à nos sens.
Moi, j'ai toujours pas trouvé ma définition. Non, mais c'est trop dur, je dois y réfléchir.
C'est quelque chose qui... Pour moi, l'art, c'est tout ce qui est à des fins autres. Non, justement, tout ce qui a des fins autres que pratiques. Du coup, ce qui a pour but ne servira à rien si ce n'est de réjouir l'œil. Enfin.
Donc esthétique.
Exactement, tu vois.
Et ça peut pas être engagé et moche, par exemple ?
Si.
Donc pas esthétique.
Non, engagé, oui, moche, non.
D'accord.
Parce que c'est pas de l'art. L'art, c'est une vocation esthétique, genre intrinsèque.
Et puisqu'on a tous notre vision de la beauté, comment tu peux mettre les gens d'accord sur qu'est-ce qu'est l'art dans ce cas ?
Ah bah, pour moi, impossible, tu vois. Justement, c'est très subjectif. Chacun a sa vision de l'art. Mais si pour toi c'est de l'art, c'est que tu trouves quelque chose d'esthétique. Après, engagé oui ou non, ça te regarde. Mais tu vois une beauté. Tu vois, genre, même tu vois, genre, le fait d'être engagé, ça peut pour toi être une forme de beauté, tu vois. Genre une beauté un peu genre. Comment dire ? Genre, tu vois du courage, tu vois de l'engagement. C'est une forme de beauté, tu vois. Okay. Mais voilà, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui a pour but d'être toute chose que pratique. C'est juste à des fins esthétiques.
Merci.
Alors, pour moi, l'art, c'est toutes les choses qui ont pour but d'apporter un plaisir émotif ou esthétique quand tu les regardes, une espèce de jouissance. Donc, ça ne veut pas dire que c'est forcément du beau. Esthétique, ça peut être moche. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une espèce de... Il faut que ça provoque quelque chose chez le spectateur, chez le lecteur, chez l'auditeur. Donc c'est tout ça ce que c'est l'art pour moi.
Merci. Donc on remercie encore une fois toutes ces personnes qu'on a interrogées, qui ont accepté de répondre à nos questions pas si faciles. On voit que l'art, c'est une définition, chacun a une définition propre à lui-même. C'est une définition qui est très libre, qui est souvent basée sur... Quand on parle d'art, les gens parlent souvent d'art visuel, donc d'œuvre artistique. On voit que c'est une définition qui est très large. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est l'art selon vous ?
Alors, je vais y répondre en premier. Pour moi, l'art, je suis assez d'accord avec toutes les réponses qui touchaient à l'esthétique. Pour moi, l'art, c'est quelque chose... quand moi, je vois de l'art et que ça me plaît, c'est que c'est quelque chose que je trouve beau ou que je trouve agréable. Le type d'art que je vais le plus auquel je vais le plus confronter, ça va être la musique. Et la musique, ça me plaît forcément quand la mélodie me plaît, quand les paroles me plaisent. Je reviens aussi sur l'engagement aussi. Une musique peut me plaire quand les paroles sont engagées et que ça va dans que je suis d'accord avec ces paroles. Et mais si on est sur de l'art plus visuel, effectivement, ça va être quelque chose sur des sujets qui me parlent, sur des choses tout simplement belles avec un côté technique très poussé. Je pense que c'est ça quelque chose de l'art pour moi, c'est quelque chose qui est beau, que ce soit techniquement ou dans l'interprétation.
Alors moi justement, j'étais pas tout à fait d'accord avec les deux dernières personnes qui ont parlé, qui ont dit je suis d'accord du fait qu'il y a un aspect esthétique dans l'art, un choix de l'esthétique. Mais pour moi, ce n'est pas forcément pour créer une émotion joyeuse ou positive dans l'interlocuteur. Et justement, en particulier quand c'est engagé, ça peut même mettre un certain malaise dans celui qui regarde l'œuvre d'art ou qui écoute la musique, par exemple. Ça peut être des musiques très désagréables. Enfin, même si on parle de musique classique, le Requiem de Mozart, c'est beau, mais ce n'est pas forcément toujours très agréable à écouter. Enfin, pour moi, c'est subjectif, évidemment, ce qu'on peut définir et ce qu'on trouve être une œuvre qualitative. Mais pour moi, les œuvres qui me parlent, ce n'est pas forcément ce que je juge être beau particulièrement.
Bah, c'est vrai que moi, je pense qu'il faut que ça dégage une émotion. Mais je te rejoins sur ce que tu dis, Louise. Au sens, ce n'est pas forcément une sensation joyeuse, plaisante, etc. Moi, je suis assez sensible à ce qui est visuel, effectivement. Donc, je me rejoins pas mal dans ce que disaient les personnes. C'est plutôt le cinéma, moi, qui me touche beaucoup comme art. Et aussi les expositions de peinture ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que, pourtant, la musique, c'est aussi de l'art. La cuisine, même, on entendait le pizzaiolo là tout à l'heure, c'est aussi de l'art. Mais c'est vrai que quand c'est visuel, moi, perso, ça me parle un petit peu plus.
Pour moi, l'art ne doit pas forcément être typé, donc être de la musique ou d'une sculpture, etc. Ça peut prendre plusieurs formes différentes. Et je suis plutôt partisante du fait que l'art vient plutôt de l'intention de l'artiste et que ce n'est pas au spectateur de,
de savoir si une œuvre est légitime d'être appelée œuvre d'art ou non. Donc je pense vraiment qu'une œuvre est caractérisée comme art si l'artiste a l'intention d'en faire de l'art plus que si elle est esthétique ou si elle plaît au spectateur, etc. Je suis plus de ce point de vue-là.
Je suis assez d'accord avec toi. Parce que après avoir si l'artiste a réussi à transmettre son message de manière efficace au spectateur, mais je suis d'accord que ce qui en fait l'œuvre d'art, c'est pas forcément l'opinion des autres toujours.
Je suis assez d'accord aussi. Après, moi, je reviens sur ce que tu disais sur les émotions que ça va procurer. C'est un peu ce que je voulais dire quand l'œuvre me parle, en fait. C'est quand tu transmets quelque chose, effectivement, ça peut être un sentiment qui est désagréable et quelque chose qui va nous faire ressentir un sentiment autre que la joie ou la bonne humeur. Ça peut être effectivement quelque chose qui va nous sembler triste ou quelque chose de désagréable, comme tu disais.
D'accord.
Merci pour vos définitions.
Alors, pour partir un petit peu plus sur un aspect concret, le mot art vient donc du latin ars, qui veut dire habileté, technique ou savoir-faire. L'art est donc tout d'abord la mise en œuvre d'un savoir-faire pour aboutir à un résultat. On peut aussi parler d'art sur un plan philosophique. Pour l'anthropologue Marcel Mauss, l'objet d'art est l'objet reconnu comme tel par un groupe. On associe généralement l'art à la beauté, ce qui pose donc la question « c'est quoi la beauté ?». L'artiste est celui qui nous décrit la beauté de la vie, de la nature à travers nos sens. Le visuel pour la peinture et le dessin, l'ouïe pour la musique, le toucher pour la sculpture, etc. L'art est donc là pour évoquer quelque chose en nous, une émotion ou un sentiment.
Merci, donc maintenant on comprend un peu mieux ce qu'est l'art, quel est son but d'origine. À travers l'histoire, on va regarder un peu l'évolution de l'art. Donc ça va du romantisme à l'art moderne, ça passe par le réalisme. À travers le temps, on observe une évolution dans le rôle de l'artiste et une évolution dans la définition même de l'art. Prenons par exemple La Fontaine de Marcel Duchamp. La Fontaine est une œuvre qui a provoqué une grande controverse dans le monde de l'art en 1917. L'artiste avait tout simplement posé un urinoir à l'envers sur un socle, l'a signé et a décrété que c'était une œuvre d'art. Il a ainsi remis en question le savoir-faire de l'artiste, vu que c'est ce qu'on appelle un ready-made, un objet industriel. Donc il n'a pas apporté de compétences techniques, ou en tout cas pas de grandes compétences techniques. Et la notion de beauté dans l'art a été remise en question aussi, tout ça dans une même œuvre. On se pose même la question de est-ce qu'on peut encore qualifier cette œuvre aujourd'hui ?
Cette évolution dans les tendances artistiques, dans les mouvements, c'est dû à plusieurs choses. En fait, la société actuelle, les mouvements politiques, les gouvernements en place et les crises de l'actualité. Tout ça, ça joue un grand rôle dans ce qui sera représenté dans l'art. Par exemple, aujourd'hui, si on prend des grands sujets d'actualité, ça pourrait être la guerre en Ukraine ou la crise climatique qui pourrait inspirer des œuvres d'art. Ensuite, on a des innovations technologiques qui permettent une avancée dans les tendances artistiques. Sans l'invention de la peinture, les peintres n'existeraient pas et personne ne prendrait le temps de savourer une exposition de peinture. Dans cette émission, nous allons surtout nous focaliser sur ces innovations pour savoir comment ils influenceront l'art dans les années qui viennent.
On se lance dans le vif du sujet avec le numérique. On vit aujourd'hui dans une société qui ne pourrait pas fonctionner sans Internet ou sans ordinateur. Les innovations technologiques ne cessent de se développer et le domaine artistique ne fait pas exception. Il existe déjà énormément de moyens pour faire de l'art à l'aide du numérique. Par exemple, les tablettes graphiques pour le dessin, la réalité virtuelle où l'on peut faire tout type d'art, sculpture, street art, peinture, etc. Les logiciels comme GarageBand qui permettent de faire de la musique assistée par ordinateur et bien d'autres exemples. Donc grâce au numérique, la créativité a de moins en moins de limites.
Nous pouvons citer comme exemple d'art numérique l'art génératif. C'est un type d'art qui utilise des systèmes et des processus algorithmiques pour créer des œuvres d'art. Les artistes programment des règles et des instructions pour une machine ou pour un logiciel qui produit ensuite une œuvre d'art. Les artistes ont accès à ces nouveaux outils de plus en plus performants chaque année. La question est donc de savoir s'ils vont s'approprier les outils qu'on leur propose. Aujourd'hui, plusieurs artistes se sont lancés dans l'art numérique sous plusieurs formes et on vous propose d'en découvrir quelques-uns.
Alors, nous allons vous présenter aujourd'hui un artiste multimédia mexico-canadien, Rafael Lozano Emmer. Alors, il commence sa carrière vers 90 en confectionnant des pièces sonores pour la Radio Art Exhibition d'Ottawa et en réalisant des performances multimédia théâtrales dans des galeries d'art québécoises. Aujourd'hui, il utilise la reconnaissance faciale ainsi que les algorithmes et s'intéresse au rapport entre l'œuvre d'art et le spectateur. Ses œuvres ont déjà été admirées aux Jeux Olympiques de Vancouver et sont régulièrement exposées à New York au MoMA. Rafael s'inspire de diverses notions liées à la conception de l'espace, telles que le concept de l'architecture relationnelle.
Son œuvre Surface Tension, réalisée entre 1992 et 1993 à l'Université de Madrid, est une installation interactive orwellienne qui nous plonge dans le monde de l'écrivain George Orwell. Elle présente sur un écran un gros plan d'un œil qui suit les déplacements latéraux des observateurs. De cette manière, l'observateur se retrouve observé à son tour. Cette œuvre questionne les visiteurs sur la société d'hypersurveillance de l'ère actuelle. L'œuvre a déjà pu être admirée au Mexique, en Argentine, en Pologne, en Italie et en Espagne, et même à Paris, à la Gaîté Lyrique.
Alors en ce moment, l'artiste présente son exposition Listening Forest dans l'Arkansas au Crystal Bridges Museum of American Art. La musique a été composée spécialement pour l'événement par Robin Rimbaud, plus connu sous le nom de Scanner. Les visiteurs sont conviés à la tombée de la nuit pour interagir avec la forêt. L'exposition mêle jeux de lumière et vidéo qui s'animent par les battements du cœur, la voix ou les déplacements du corps des spectateurs. Pour vous mettre encore plus dans l'ambiance de cette exposition, on vous propose d'écouter un extrait musical. Vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder la vidéo Listening Forest sur YouTube pour avoir une idée plus précise de cette exposition. Alors cette exposition qui a lieu dans la forêt, au beau milieu de la nuit, du coup dans l'Arkansas, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous seriez susceptible d'aller, ou ça vous plairait de faire ce genre d'exposition
Bah moi personnellement je pense que j'aimerais bien. C'est quelque chose qui doit être assez unique à vivre en vérité. Le concept de déjà d'être la nuit dans une forêt. Bah, c'est pas forcément tous les jours qu'on fait ça. Et effectivement, en jouant avec la lumière, les vidéos, la musique, on doit être plongé dans une ambiance qui doit être quand même assez particulière. Et je pense que ça doit être quelque chose à vivre, en tout cas. Même si ça doit être assez terrifiant, ouais, dans l'idée, je trouve.
Moi, j'aime bien l'idée d'une œuvre comme ça qui stimule autant de sens différents, que ce soit du coup le toucher, l'ouïe avec la musique... Tous les différents sens, je trouve ça intéressant de se retrouver vraiment en immersion dans une œuvre. C'est un concept, c'est un format un peu différent qui change de la normale, si je puis dire. Et je pense que ça m'intéresserait beaucoup d'y participer.
Je suis tout à fait d'accord avec Garance, en fait, d'avoir vraiment cette immersion dans l'œuvre d'art. Quelque part, on est plongé dans l'art, dans une expérience, avec toute une ambiance, enfin, je trouve que ça doit être assez particulier et même si on pouvait faire ça en France, ce serait super parce que pas forcément besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour aller voir ça, mais ce serait incroyable, je pense, de faire cette expérience.
Alors moi, j'avais vu une exposition qui était au Grand Palais de Bilviola. Alors Bilviola, c'est tout ce qui est art vidéo en fait, donc c'est assez spécial comme œuvre. Il faut aimer ou pas du tout. En fait, il y a différentes pièces et dans chaque pièce, vous avez une œuvre vidéo, mais ça peut être une œuvre vidéo à 360 degrés, donc vous allez vous tourner régulièrement pour voir un petit peu tout ce qui se passe. Ou parfois, vous êtes en face d'une vidéo et vous vous rendez compte que ça bouge pas. Mais que vous regardez à côté sur l'écriteau qui a marqué que l'œuvre dure 22 minutes. Et vous dites, mais C'est bizarre. Et en fait, il y a une évolution, mais tellement lente. C'est quelqu'un qui plonge dans un ruisseau. Et c'est tellement lent, en fait, que vous dites, bah, cette œuvre, il n'y a rien, quoi. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans celle qu'on vient d'entendre là, c'est le côté interaction, en fait. Parce que c'est vrai que comme on est au beau milieu de la nuit dans la forêt, je trouve que s'il n'y avait pas d'interaction, peut-être que ça perdrait un peu de son charme. Et le fait de dire, bah, il faut que j'y aille, mais il faut que j'interagisse avec, je trouve que c'est assez novateur.
On vous présente maintenant l'artiste audiovisuel expérimental américain Golan Levin. Lui aussi utilise le numérique pour créer des œuvres physiques interactives, comme par exemple les sculptures robotiques. Un de ses premiers projets importants, qui fait maintenant partie de la collection du American Museum of the Moving Image, situé dans le Queens à New York, est Rouen Revisited, en 1996. Il s'agit d'un hommage aux peintures impressionnistes, obsédantes et répétitives de la cathédrale de Rouen, peinte par Claude Monet. Pour rappel, entre 1892 et 1894, Claude Monet réalisa presque 30 toiles de la façade de la cathédrale de Rouen. Fasciné par le jeu de lumière sur l'édifice gothique, il s'exerça à peindre à différents moments de la journée et sous des angles et conditions atmosphériques très variés. Chaque tableau offre donc une scène teintée de l'atmosphère et de l'humeur du moment.
Effectivement, cette œuvre présente un kiosque interactif dans lequel les visiteurs sont invités à explorer la façade de la cathédrale de la même façon que le peintre Claude Monet l'aurait vu. Golan Levin, je suppose que ça se prononce comme ça, et son ami Paul Debevec se sont intéressés à élargir les scènes de la cathédrale en étirant et en assemblant les points de la peinture de Monet et en les replaçant dans une reconstitution de la ville de Rouen du début du siècle. Un modèle en trois dimensions a été fabriqué grâce à un algorithme à partir de simples photographies. Une datant de 1996 et les autres de photographies d'archives représentant la cathédrale à l'époque de Monet. Les tableaux ont été rapportés et projetés sur ce modèle 3D. Chacune des peintures et photographies projetées a été reconstituée pour une centaine d'angles de vue différents. Ainsi, l'interface de Rouen Revisited permet l'exploration de plus de 12 000 images de synthèse. Enfin, des enregistrements des cloches de la cathédrale constituent la bande sonore. Golan Levin nous en dit un peu plus sur son œuvre. Rouen Revisited est un artefact issu d'un artefact, une interprétation interactive et libre de peinture et de photographie, elle-même des interprétations d'une œuvre d'art gothique. Finalement, l'interprétation proposée par Rouen Revisited est dynamique, imaginée dans l'esprit de l'utilisateur lorsqu'il crée, grâce à l'interface multidimensionnelle, sa propre composition de la cathédrale de Rouen. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette exposition interactive ? Est-ce que on va en voir de plus en plus, peut-être.
C'est vrai qu'avec l'évolution des technologies, ça rend possible des expositions d'une nouvelle forme, donc d'une forme différente. Avant, c'était surtout impossible parce que, justement, on n'avait pas les lieux adaptés pour accueillir ce genre d'exposition. Je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à l'aise avec l'art numérique, l'art généré numériquement, avec numériser, par exemple, des œuvres, des tableaux, etc. Donc je pense que c'est des choses qu'on verra de plus en plus parce que c'est vrai que ça offre un format différent et l'utilisateur se retrouve un peu plongé dans l'œuvre d'art et l'œuvre, puisqu'elle est numérisée, va bouger, etc., ça va la rendre beaucoup plus vivante, ça va lui apporter du mouvement et donc ça permet au spectateur d'avoir une perspective complètement différente face à l'œuvre. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue différent et l'art de toute manière est amené à évoluer pour qu'il y ait un petit peu d'innovation, de renouveau, etc.
Ouais, je partage ton avis, moi, sur l'innovation. Je pense que, par exemple, une œuvre comme Rouen Revisited, ça peut autant intéresser des gens qui sont pas du tout, à l'aise, on va dire, avec Claude Monet, ou qui connaissent rien. Et du coup, ça les attire peut-être à voir les tableaux qui seraient pas numérisés, et d'autres qui connaissent justement très bien l'œuvre et qui disent bah, j'essaye de voir qu'est-ce que le nouvel artiste en gros a pu apporter à l'œuvre. Et je trouve que la recherche sur ça, elle est assez intéressante, quoi, quand on voit toute la technologie qu'il y a derrière pour avoir fait cette œuvre. C'est plutôt cool, et moi je pense qu'on va en avoir de plus en plus d'expositions comme ça.
Oui, oui, je suis de votre avis aussi. Justement, je pense que c'est très d'actualité d'avoir des œuvres interactives, immersives aussi. Bah justement, parce que je pense que l'art, quelque part, c'est toujours un peu provocateur. On cherche à faire un impact sur le spectateur. Et justement, aujourd'hui, faut immerger les gens dans l'art, quelque part, pour avoir un grand impact. Et c'est un peu une innovation, c'est une certaine... Enfin, je dirais pas forcément une révolution, mais c'est un renouveau. Et justement, c'est ça qui va choquer, c'est ça qui va avoir un impact sur ceux qui regardent.
Ouais, bah, je suis d'accord avec vous tous dans le sens de l'innovation, dans le sens d'apporter un nouveau regard sur des anciennes œuvres, puis même de mêler anciens et nouveaux, de créer autant d'images et une reconstitution aussi incroyable, quoi. C'est ça qui est super cool et j'aime beaucoup le concept. En vrai, j'aimerais bien en voir plus, forcément.
Alors, pour préciser un petit peu, les deux artistes desquels nous avons parlé ont une formation ingénieur, ce qui souvent le cache les artistes d'art numérique. Si on revient à la définition de l'art, on voit bien que l'art requiert toujours un espèce de savoir-faire. On peut dire que donc le savoir-faire artisanal, donc la sculpture de la pierre, de l'argile ou même le dessin, etc., a évolué en savoir-faire technique et technologique de l'ordre de l'ingénierie. On voit donc au fil du temps les compétences utilisées par les artistes reprennent celles les plus demandées dans la société de chaque époque. Nous vous présentons maintenant un troisième artiste, Mike Winkelmann, mais vous le connaissez sûrement beaucoup plus sous son nom d'artiste Beeple. Ce spécialiste des effets spéciaux numériques américains est devenu l'artiste phare de l'art numérique. Avec plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, il s'est fait connaître grâce à ses collaborations avec des grandes marques prestigieuses telles que Louis Vuitton ou Nike, mais aussi avec des artistes comme Madonna. Il crée principalement des œuvres dystopiques et ironiques du monde futur. Lui utilise plutôt un logiciel qui lui permet de faire des compositions d'éléments 3D sans avoir besoin de dessiner chaque élément lui-même.
Et en parlant de Beeple, maintenant nous allons vous parler de quelques-unes de ses œuvres et on va commencer par Zuckerbeast Sighting. Alors c'est une image qui représente Mark Zuckerberg en monstre avec ses muscles et ses veines apparentes. Alors il est accroupi portant uniquement un short et il se fait prendre en photo par trois personnes qui sont évidemment bien plus petites que lui. Et c'est une cour d'immeuble sombre aux couleurs vertes et jaunes qui contraste avec le créateur de Facebook aux couleurs rouges et blanches.
Une autre œuvre, je vais parler de l'œuvre Endgame qui représente Donald Trump, géant et nu. Il a le Capitole entre ses jambes et les pouces levés en l'air. En premier plan, on voit des manifestants poing levé ou mimant des coups de poing face aux policiers. Seuls des nuages gris sont présents dans le ciel pour illustrer le climat apocalyptique du 6 janvier 2021.
Un dernier pour la route, nous parlons maintenant de Jong V2.0. Nous sommes place Kim de Sung en Corée du Nord, principal lieu des rassemblements des manifestations de masse du régime. En premier plan, l'armée est représentée en vert, de la même couleur que les chars de combat. Un tapis rouge central sépare les différentes sections. En second plan, se tient Kim Jong-un, un énorme robot métallique, les deux moitiés de sa tête étant reliées par de la ferraille. Donc Beeple utilise le numérique pour créer ses œuvres et suivre sa créativité sans avoir de limites techniques, parce que toutes ses œuvres sont impossibles sans l'aide du numérique, ou alors très compliquées techniquement. Ses œuvres sont engagées, le numérique l'aide à le représenter, et des personnalités puissantes dans un cadre réaliste pour exposer ses opinions et dénoncer. Un tel travail lui demanderait un temps important et une excellente technique sans l'aide d'un ordinateur.
On ne peut pas évoquer le travail de Beeple sans parler des NFT. Les non-fungible tokens sont une forme de crypto-monnaie qui permet de marquer un objet numérique pour le rendre unique à l'aide de la technologie blockchain. C'est donc une certification de la possession d'un objet virtuel. Et avec les NFT, on peut donc vendre et collectionner des œuvres numériques, ce qui n'était pas possible auparavant. C'est comme si on avait un acte de propriété certifiant que c'est notre, que l'œuvre nous appartient. Beeple, en plus d'être un artiste numérique particulièrement important, c'est un des artistes les plus valorisés d'aujourd'hui grâce au NFT. Son œuvre Every Day's the First 5000 Days représente une mosaïque de ses 5000 premiers dessins et animations vectorielles. Initialement mise à prix à $100, l'œuvre NFT a été mise en vente en mars 2021 chez la maison de vente aux enchères Christie's pendant 14 jours. Au cours des 10 dernières minutes de la vente aux enchères, l'œuvre a vu son prix grimper d'une façon vertigineuse à plus de 69 millions de dollars. Cependant, le record est détenu par l'œuvre The Merge de l'artiste Pac, vendue à presque 92 millions d'euros. Donc là, on a vu qu'avec les NFT, il y avait tout l'aspect collection et vente qui arrivait. Est-ce que pour vous, l'enjeu de l'art, c'est cette vente et la collection? Et pensez-vous que les personnes sont sensibles à cette apparition de cet art numérique, uniquement numérique en fait, ou...
Alors je pense que oui, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont sensibles à ce type d'art. Après, vu les sommes dont on parle là, il y a peut-être l'idée de se dire je l'achète maintenant parce que je suis sûr de pouvoir la revendre plus cher parce que c'est une œuvre rare. Je sais que les 5000 premiers dessins dont on parlait là, c'est les dessins qu'il a fait. Il a fait un dessin par jour et après il a recréé sa mosaïque. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose qui est intéressé en se disant bah, ça va peut-être être collector très vite. Après, au niveau de l'enjeu de la vente et de la collection, c'est sûr que je pense qu'il y aurait moins d'expositions s'il n'y avait pas des mécènes, en fait. Moi, je vais souvent à la Fondation Louis Vuitton et il y a souvent du coup, des expositions qui tournent. Et c'est une autre manière d'approcher l'art. Et je pense qu'avoir des collectionneurs comme ça, c'est aussi important parce que ça nous permet de conserver l'art et de pouvoir en profiter en tant que spectateur.
Ouais, je suis d'accord. Après moi, le concept des NFT, je suis vraiment pas fan parce que je vois pas une façon de montrer son art. Je vois juste une façon de se faire de l'argent ou juste de. C'est vraiment le même concept que les crypto-monnaies, de faire monter ou descendre les valeurs des œuvres d'art. Donc moi, je suis pas vraiment pour, mais c'est mon opinion personnelle. Après, est-ce que du coup les gens seraient Est-ce que les gens verraient un nouveau type d'art là-dedans? Je ne sais pas trop. Par contre, l'art numérique, comme Beeple, le fait, ça, je trouve ça vraiment cool. C'est une nouvelle façon de voir de l'art. C'est toujours plus mettre en œuvre la technologie dans une nouvelle façon de créer de l'art. Et ça, j'aime beaucoup. Mais pour tout ce qui est aspect de l'art, tout ce qui est vente et collection, pour moi, c'est le fait que l'œuvre soit connue, qui la rend rare et qui la rend, qui va la rendre si chère et si impressionnante à collectionner. Mais j'espère que ce n'est pas le but de l'œuvre d'art, finalement.
Alors moi, je suis plutôt de l'avis d'Eliott là-dessus. Et par rapport à ce que tu disais, Félix, sur les NFT, pour moi, les NFT, ça, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est collection et les enjeux de la vente et de la collection de l'art. Mais je pense que c'est quand même un bon outil pour justement certifier qu'une œuvre appartient bien ou a bien été créée par un certain artiste. Donc ça rentre aussi dans les droits d'auteur. Et je pense que ça, c'est important, notamment par exemple dans la musique, ça peut être un bon outil. Donc je pense que ça reste intéressant de parler de NFT. Après, tout dépend comment on les utilise. Et pour rebondir un petit peu sur ce que Eliott avait dit tout à l'heure par rapport à des collections privées et justement des personnes qui partagent leurs collections pour le public, je trouve ça très intéressant. Par exemple, là, il y a actuellement une exposition au Centre Pompidou de Norman Foster, qui est donc un grand artiste, c'est un architecte britannique. Et l'exposition, c'est donc notamment ses maquettes, son travail, donc tous les bâtiments qu'il a fait, etc. Mais c'est aussi mélangé à donc sa collection d'art personnel, et où il y a notamment, par exemple, l'oiseau qui s'envole vers l'espace de Brancusi, je pense. Et justement, c'est très intéressant parce que sa collection a un rapport avec le travail qu'il a fait, parce que justement, Norman Foster a cette fascination de aller dans l'espace, toujours aller plus haut, etc., avec ces grands bâtiments, par exemple le Gherkin à Londres aussi, qui ressemble à une fusée. Et justement, tu vois le rapport par rapport à ses goûts personnels et les œuvres qu'il collectionne et son travail personnel artistique aussi. Et je trouve ça très intéressant de justement mettre ça en relation. Et c'est pour ça que la collection, quelque part, quand on le rend accessible au public, c'est là que c'est intéressant. Alors que, bon, je suis d'accord avec toi que si c'est juste pour collectionner, pour avoir un investissement et dire oui, ça vaudra plus tard, c'est autre chose.
Je pense pas que l'enjeu de l'art devrait être la collection. Je suis d'accord avec toi, Louise, sur le fait que c'est intéressant, bien sûr, pour l'artiste de montrer son travail aux autres, pour déjà connaître pour lui-même l'impact que ça aura sur les autres, mais aussi pour simplement faire profiter les autres de son travail, parce que ça intéresse nombre de gens. Mais je reste un peu sur... ça revient à la définition que j'avais donnée de l'art en tout début d'émission. Je pense que l'œuvre devrait être créée non pas pour être montrée à un public, être collectionnée, être vendue, même si je comprends que c'est une nécessité pour les artistes pour qu'ils puissent continuer leur travail. Mais je pense pas qu'elle devrait avoir pour vocation d'être montrée parce que ça biaiserait un petit peu l'œuvre selon moi, non pas ça ne la rendrait pas purement comment dire, ça, il y aurait un impact trop important du jugement des autres dans l'œuvre en fait.
On perdrait en authenticité en fait en quelque sorte.
Oui, exactement. C'est ça que tu veux dire. Merci.
Ouais, je suis assez d'accord avec tout ça.
Et maintenant, on va vous parler des nouveaux lieux d'exposition. Alors, l'art numérique, c'est pas seulement numérique dans la façon dont il est créé, mais aussi parfois dans le lieu où il est exposé. On va vous parler maintenant de nouveaux lieux d'exposition pour l'art, et on commence par l'Atelier des Lumières à Paris. Ce lieu propose des expositions numériques avec des œuvres innovantes et immersives. C'est une ancienne fonderie inoccupée depuis la crise de 1929 et découverte par Bruno Monnier. En 2013, il a l'idée de la transformer en centre d'art numérique. L'Atelier des Lumières projette des œuvres à 360 degrés sur les murs d'un immense hangar, et tout cela accompagné d'un fond musical. Les visiteurs sont invités à se déplacer pour admirer des peintures numérisées d'artistes. Fort de sa réussite avec les expositions de Van Gogh ou Klimt, l'atelier présente en ce moment la dernière création artistique de Gianfranco Iannuzzi, où l'on entre en immersion dans le monde de Chacal.
Mais l'Atelier des Lumières n'est pas le seul lieu d'exposition pour les œuvres numériques. On connaît aussi le MAD, Madrid Artes Digitales, je ne sais pas si mon accent est juste, un centre immersif à Madrid ouvert en 2022. Il présente en ce moment une exposition sur Toutankhamon, idéale pour se plonger dans 3400 ans en arrière. Ce centre dispose en plus de 1200 m² d'écrans de réalité numérique immersive, 50 postes de réalité virtuelle et 50 postes de réalité virtuelle. C'est une technologie où l'on porte un masque sur les yeux qui permet d'être immergé dans l'environnement 3D dans lequel on peut se déplacer. On peut donc, grâce à cette technologie, participer à des expériences impossibles à reproduire dans la réalité ou difficiles à mettre en place.
Dans le même type de lieu, il y a aussi le bassin des Lumières à Bordeaux, les carrières des Lumières au Beau de Provence et la fabrique des Lumières à Amsterdam, qui met en ce moment Salvador Dali et Anthony Gaudí à l'honneur.
Vous avez bien compris, les musées immersifs adorent préciser que les écrans font de la lumière. Ces lieux permettent donc d'exposer des œuvres numériques. L'artiste peut donc montrer ses œuvres dont la taille souhaitée sans être contraint par la taille d'écran du spectateur. Cependant, ces lieux d'exposition ne sont pas exclusivement réservés à l'art numérique. Notamment pour le MAD, on peut dire que le moyen d'exposition même est numérique, mais l'œuvre ne l'est pas forcément. Comme on a vu, le musée présente une exposition immersive sur Toutankhamon et l'Égypte antique. C'est donc un mélange des deux mondes assez incroyable.
Nous vous rappelons que nous nous retrouvons aujourd'hui à la radio Graphite pour les échos d'innovation dans le cadre du cours de débat de sciences et débats publics à l'Université de technologie de Compiègne. Nous débattons aujourd'hui sur le thème de l'art du futur.
Et nous allons désormais aborder le sujet des IA, des intelligences artificielles dans l'art. On en parle énormément des IA en ce moment avec la sortie de ChatGPT, un prototype d'agent conversationnel qui est spécialisé dans le dialogue développé par OpenAI. Il existe de plus en plus de modèles d'IA qui peuvent faire différentes choses. Certains peuvent notamment faire des illustrations, des photographies et même de la musique. Si on prend l'exemple de ChatGPT, il peut, sur demande de l'utilisateur, générer du texte, des poèmes, des histoires.
Il existe aujourd'hui des intelligences artificielles capables de créer des illustrations à partir d'une description écrite donnée par son utilisateur. Nous pouvons citer DALL-E, qui s'écrit DA2L-E. Cette intelligence artificielle permet de générer des images à partir de requêtes textuelles, d'effectuer des modifications réalistes et ciblées sur des images, ou encore de créer plusieurs variantes d'une image en s'inspirant de l'original. Nous pouvons aussi citer Jasper Art ou encore Night Café, qui, de la même manière, sont capables de générer des œuvres d'art à partir d'un texte. Avec ces intelligences artificielles, il suffit à l'utilisateur de donner son idée à l'intelligence artificielle, de la lui écrire, et le travail technique est fait par l'intelligence artificielle, donc sans l'intervention de l'utilisateur. L'IA a une base de données énorme composée de tout type d'œuvres d'art, et à l'aide du texte descriptif de l'utilisateur et des œuvres qu'elle connaît, elle est capable de générer une nouvelle œuvre.
Il existe aussi des intelligences artificielles développées pour composer de la musique, comme le projet MusicLM de Google. De la même manière, elle imite les instruments et s'inspire de morceaux qu'elle connaît pour créer de nouveaux morceaux harmonieux correspondant à un style donné. Ces productions d'œuvres par les IA nous font poser la question de la limite de l'art. Est-ce qu'une œuvre générée par une intelligence artificielle et non un humain est-elle considérée comme de l'art?
Moi, finalement, ce que j'en pense, c'est considérer comme de l'art, c'est, on pourrait voir les intelligences artificielles comme un outil, dans le sens où c'est l'utilisateur qui serait l'artiste, et c'est l'input, le texte qu'on rentre dans l'intelligence artificielle, qui serait l'art, entre guillemets, où ensuite l'artiste peut apporter des modifications, dire de changer quelques trucs, et au final arriver à une œuvre qu'il n'a juste pas les compétences techniques de faire, mais qui représente complètement ce qu'il voulait dire finalement. Donc évidemment, si on lui demande juste un texte brut à l'IA, c'est pas de l'art pour moi, mais si un humain a réfléchi à chaque élément de l'œuvre générée, pour moi, ça peut être considéré comme de l'art.
Donc, de ce que je comprends, de ce que tu dis, ça voudrait dire que pour toi, ce qui fait d'une œuvre de l'art, c'est plus l'idée de l'œuvre que la partie technique qui sera du coup appliquée par l'IA et non plus par l'utilisateur.
Ouais, carrément. Pour moi, c'est carrément le message qu'il y a derrière qui va être plus important. Après, évidemment, il y a l'aspect esthétique, mais là, dans ce contexte-là, l'aspect esthétique et la technique de l'œuvre, bah, elle n'est pas vraiment à la charge de l'artiste. Donc je pense que là, ce qui est important, c'est de penser au message que l'artiste a voulu transmettre.
Moi, je pense qu'il faut vraiment une description, en fait, assez forte pour que l'intelligence artificielle puisse faire quelque chose qui ressemble vraiment à ce que l'artiste voulait de base. Ouais, parce que je pense à ça, par exemple, par rapport au livre. Quand on lit un livre, chacun, on a des images qui nous viennent en tête, et c'est évidemment jamais les mêmes images entre nous tous, et c'est aussi ça qui est intéressant. Et je me dis, avec une intelligence artificielle, si tu lui demandes exactement la même chose, par exemple, sur plusieurs intelligences artificielles différentes, est-ce que tu as le même rendu, tu vois? Et est-ce qu'au final, ce que tu vois, c'est vraiment ce que l'artiste a imaginé au début, en donnant une description très poussée de ce qu'il voulait? Parce que si tu donnes une description assez vague, bah, je suis sûr que l'intelligence artificielle, elle va bien se débrouiller, elle va faire quelque chose d'assez joli. Mais en fait, tu lui as donné tellement peu d'éléments que si tu lui dis « je veux juste que tu me dessines un jardin ou juste un champ », bon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc peut-être ça fera quelque chose de joli, mais peut-être pas comme tu l'as imaginé, quoi.
Je te rejoins vraiment dans ce que tu dis, Elliot. Je suis très d'accord avec ça. Quand on lit tous un livre, on a tous une perception différente. Et c'est vrai que une IA va avoir une manière de représenter un texte. Elle va s'inspirer de toutes les œuvres qu'elle a dans sa base de données. Et donc, du coup, ce ne sera pas son interprétation propre à elle, mais plutôt une interprétation issue de la combinaison des interprétations de toutes les œuvres existantes. Donc finalement, ce sera Moi, je me pose un peu la question de où est-ce qu'est vraiment la créativité là-dedans, parce que même si le texte est généré par un utilisateur, même si l'idée de base est donnée par l'utilisateur de l'IA, c'est vrai que l'IA va l'interpréter en copiant, entre guillemets, des œuvres qu'elle connaît. Et j'ai un peu de mal avec cette idée-là.
C'est vrai qu'on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, Garance, c'est l'authenticité, en fait. C'est que l'œuvre, elle est beaucoup moins authentique, puisque justement, tu peux la faire de plein de manières différentes, quoi. Et comme c'est pas toi qui fais vraiment l'œuvre, bon, peut-être que quelqu'un d'autre aurait fait la même chose, quoi.
Oui, forcément. Ça remet en doute la légitimité de l'auteur, forcément de l'artiste. Mais après, on n'est pas non plus sur quelque chose de... je pense que c'est la précision qui fait la valeur de l'artiste, finalement.
Ouais, ok. Ça se tient.
Alors, on va passer sur un micro-trottoir un petit peu technique qu'on va vous présenter. Alors, on a proposé donc à plusieurs passants donc de donner leurs avis sur différentes images créées ou non par intelligence artificielle. Alors, on va vous expliquer tout ça pour que ce soit à peu près clair, vu que vu que vous écoutez, vous pouvez pas forcément voir les images qu'on a montrées. Alors, on a commencé donc par montrer deux images. On vous donnera les réponses après. Qui ont été composées. Je vais pas vous donner les réponses après. Je vous les donne tout de suite les réponses. Tiens. La première série d'images donc qui est composée de deux imitations de photos créées à l'aide donc d'intelligence artificielle, le logiciel Midjourney qui a été créé par Laurent Ashkenazi. Et on a donc demandé aux passants de nous dire est-ce que vous pensez que c'est de l'intelligence artificielle ou des vraies photos.
Alors, je penserais en intelligence artificielle pour moi, par rapport à l'éclairage. Ça, c'est dans quel pays, on le sait, ça ? Mexique ? Amérique du Sud ? Ça peut être un morceau de météorite quelconque, ou récupéré dans le désert et mis sous globe. Je tente une véritable œuvre placée là.
Pour moi, c'est des photos d'intelligence artificielle, hein.
Les photos 1 et 2, je pense que c'est de l'intelligence artificielle.
Les photos ne sont pas des vraies photos.
Pour moi, les photos 1 et 2 sont des photos créées par intelligence artificielle.
Alors, comme vous pouvez voir, il y a des opinions
partagées
sur les différentes photos. Alors, la majorité ont quand même su dire que c'était des intelligences artificielles. Mais les prochaines photos vont être un peu plus complexes. Alors, c'est deux séries de photos. Une série de photos donc, créées donc, notamment par une œuvre, une vraie œuvre, et une œuvre semblable générée par intelligence artificielle. Donc, c'est dans les deux cas. La première œuvre, c'est donc le crâne de squelette fumant une cigarette de Van Gogh, qui est l'image très similaire aussi d'un squelette. Et le deuxième, c'est un voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Voyons voir ce que les gens pensent.
Là, je dis un peu au hasard, parce que la photo 3 ressemble à ma femme, mais je pense que c'est la photo 3, la vraie. C'était donc au-dessus.
Pour la photo 3, celle du dessus qui est la vraie, et la photo 4, celle d'en dessous.
Pour moi, les photos du bas sont d'intelligence artificielle.
Et donc, photo 3 en bas et photo 4 en haut.
En ce qui concerne la photo 3, le squelette, je dirais que la vraie œuvre pour moi, c'est celle du bas. Et concernant la photo 4, je dirais que c'est celle d'en haut. Voilà.
Pour moi, celle issue de l'intelligence artificielle serait la photo du bas.
Alors, pour clarifier un peu tout ça, la photo 3 était donc le squelette de Van Gogh et la photo 4 Friedrich, et dans les deux cas, la photo du haut était celle générée par intelligence artificielle. Alors là, beaucoup de réponses, je dirais aléatoires presque, Mais ça m'a beaucoup étonnée d'avoir autant de personnes qui se soient trompées, notamment pour le squelette. Il y a très peu de gens qui ont eu une réponse juste au final. Après,
alors que les œuvres sont très connues, c'est vrai que moi j'ai été étonnée aussi de voir autant de gens se tromper.
Mais après, le squelette de Van Gogh, c'est pas forcément son œuvre la plus connue. Hein. C'est plus autoportrait, je pense.
Tout à fait. Bah, justement, j'avais choisi les œuvres exprès pour que on reconnaisse pas forcément, pour pas que ce soit biaisé.
Ouais, t'as bien fait de ce côté-là, au moins comme ça.
Mais je me suis dit peut-être qu'il y aurait une personne ou deux qui aurait reconnu les œuvres, surtout que moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup. Mmh. Mais non, personne n'a reconnu et finalement, justement, enfin, l'IA a réussi à tromper pas mal de personnes, ce que j'ai trouvé assez étonnant quand même.
Ouais, c'est assez impressionnant que autant de gens se soient trompés et que la différence saute pas aux yeux. Surtout pour le squelette, vous voyez pas vraiment, vous ne pouvez pas voir forcément, mais il y a des détails flagrants. La main est très très bizarre sur celle générée par l'intelligence artificielle. Donc je suppose qu'en coup de vent, effectivement, si on regarde, en fait, dès qu'on s'intéresse un peu aux détails, on voit très clairement que c'est fait par l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est assez étonnant que autant de gens soient trompés quoi sur celle-là.
Oui, mais c'est vrai qu'à première vue, c'est vraiment pas évident. Et du coup, les micro-trottoirs nous prouvent que c'est quand même facile d'être trompé par une IA si on se doute pas, en fait.
Oui, justement, c'est aussi, je pense, le contexte du fait que ce soit un micro-trottoir. Les gens ne se posent pas de la même manière pour réfléchir et pour regarder aussi vite. Les gens regardaient d'un clin d'œil quelques secondes et ils se posaient vite fait quelques questions. Enfin, les gens un peu, enfin, plus ou moins cultivés dans le monde de l'art, évidemment, mais vu que les gens prenaient pas deux minutes pour regarder les œuvres à chaque fois, évidemment, tu te retrouves à te tromper de temps en temps.
Mais du coup, moi, je trouve que ça nous fait poser pas mal de questions au niveau de est-ce qu'on devrait apprendre à contrôler si une œuvre a été générée par un artiste ou par une IA ? Parce que là, on a vu que les gens se trompent beaucoup. Est-ce que donc ça a son importance de distinguer les œuvres des IA et les œuvres des artistes ? Parce que les artistes pourraient, en fait, s'ils le veulent, nous tromper presque. Et est-ce que ça remet en cause l'avenir des artistes ? Est-ce que vous avez un petit avis là-dessus ?
Moi, je pense que oui, forcément. Forcément, il faudrait qu'on puisse, enfin, qu'il y ait des outils simples à utiliser ou des façons faciles de voir qu'une œuvre a été faite par une IA ou par une vraie personne. Parce que là, forcément, là, on se trompe très facilement, quoi. Donc c'est assez compliqué de voir ça, forcément. Donc pour moi, ouais, c'est très important de pouvoir différencier ce qui est fait de l'homme et ce qui est fait de l'IA.
Après, ça contredit un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure, vu que tu parlais de l'IA en tant qu'outil d'artiste, enfin pour l'artiste et pour la création de l'œuvre quelque part. Donc est-ce que tu penses du coup que c'est un outil, mais il faut préciser que c'est de l'IA dans ce cas-là? Ou est-ce que c'est... Enfin, t'en penses quoi?
Bien sûr, parce que... En fait, l'IA, elle peut représenter de l'art, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, tout ça. Quand tu vois de l'art dans la vraie vie, dans des expositions, tu vois très clairement que c'est de la peinture, que tu vois une sculpture, que tu vois un dessin. Tu vois les traces quoi, des peintures, forcément. Alors que si c'est sur un écran fait par une IA, ce sera beaucoup moins simple. Et je trouve ça assez normal de savoir comment est-ce que l'œuvre a été faite, quoi. Mais je reste sur ma position que ça peut être de l'art, une œuvre générée par intelligence artificielle.
D'accord.
Mais peut-être qu'on va avoir une exposition avec des œuvres exposées par intelligence artificielle. Ouais, hein, ça ne m'étonnerait pas d'ici quelques années que tu aies ce genre de choses où tu vois des œuvres en plus différentes, toutes exposées.
Je pense que ça existe déjà, des artistes qui cèdent de l'intelligence artificielle pour créer des œuvres, après avoir à quel point ce qui complète eux-mêmes ou est-ce que c'est purement intelligence artificielle. Mais je pense que ça existe déjà aujourd'hui, des œuvres qui sont exposées.
Après, ce que tu disais au niveau de l'inspiration, tu sais, de l'artiste qui justement collectionne et qui aussi affiche ses œuvres à lui et les œuvres qu'il collectionne, là, c'est assez intéressant avec l'IA parce qu'on ne sait pas justement si l'exposition serait assez homogène, quoi. S'il y a des œuvres d'art qui se ressemblent les unes des autres ou si justement ça n'a rien à voir, tu passes d'une œuvre à l'autre sans qu'il y ait... Oui. Sans qu'il n'y ait rien de semblable.
À savoir la performance de l'intelligence artificielle dans ce cas-là peut-être. Enfin, à quel point justement le numérique arrive à faire des liens lui-même et créer une cohérence dans l'exposition.
Ouais, peut-être.
À demander carrément toute une exposition faite par IA.
Bah peut-être.
De lui demander de créer un lien entre... Ah ouais, ouais, c'est une idée. Après, mais pour moi, l'idée de la performance de l'IA, ça rentre pas du tout en compte dans la perception que j'ai de l'art créé par IA. Dans le sens où, pour moi, ça ne devrait pas être quelque chose de noté. Parce que, bah, comme je le redis, on est toujours sur quelque chose d'assisté par l'humain. En fait, l'IA, ça va être juste l'outil qui va finaliser l'idée de l'humain derrière. Donc, en vrai, est-ce que ce serait à l'IA de créer lien, pas plutôt à l'humain de créer des liens entre chaque œuvre générée par l'IA? Voilà, bon.
Avec l'arrivée de l'art généré par des IA, la question du coup de propriété de l'œuvre, on en a un peu parlé, se pose. L'utilisateur de l'IA est-il le propriétaire ? Est-ce que c'est l'utilisateur qui est considéré ? Donc si on part du principe que l'œuvre générée par une IA est une œuvre d'art, est-ce que c'est l'utilisateur qui est le propriétaire de cette œuvre, sachant que c'est lui qui a apporté l'idée ? Alors que ce dernier ne fournit aucune compétence technique, c'est l'IA qui se charge de générer l'œuvre. On peut estimer donc que le propriétaire de l'œuvre serait le développeur de l'intelligence artificielle, puisque c'est lui qui s'est occupé indirectement de l'aspect technique. Mais il n'a pas cependant fait preuve de créativité. Donc l'IA est capable de générer des œuvres en s'inspirant d'œuvres existantes, en plus de ça, qui sont dans sa base de données. Est-ce qu'on considère ça comme de la copie, du plagiat, sachant que l'IA, encore une fois, a sa perception... son interprétation propre du texte de l'utilisateur, et donc elle va beaucoup s'inspirer des œuvres qu'elle connaît. Ça peut poser beaucoup de questions.
Alors nous avons tenté d'analyser les nouvelles formes d'art nées avec le numérique et les questions qui se posent autour de ces nouvelles formes d'art. L'art a des limites floues et propres à chacun. De plus en plus de questions se posent avec ces nouvelles manières de générer l'art qui divisent technique et créativité. Nous avons abordé le cas de l'art numérique ainsi que le cas de l'art généré par des intelligences artificielles. Nous avons débattu autour des questions de la propriété des œuvres numériques, la redéfinition de l'art, les limites que l'on pourrait imposer à l'art ou encore la place de la technique dans l'art.
Nous espérons que ce sujet vous a intéressé autant que nous. Merci de nous avoir écoutés et merci à Graphi de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur ce sujet avec vous. Et merci à Elliot, à Garance et à Félix d'avoir animé cette émission avec moi.
Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission des Échos de l'innovation.
Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Merci.